À déroulement du livre aujourd'hui, nous vous présentons la première de quatre émissions d'enseignement animées par le frère Louis Saint-Mars, Capucin. La série s'intitule « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».
Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de cette méditation qui a pour thème « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ». Une méditation sur le mystère de Noël avec le regard émerveillé de François d'Assise. Comme je l'indiquais lors de la première émission, cette méditation s'appuie, se nourrit sur un récit qui nous est rapporté par le premier biographe de saint François, Thomas de Celano. Ce récit n'est pas un conte de Noël ni un traité de théologie sur la nativité, mais le récit d'un événement. Un événement voulu, organisé soigneusement par saint François dans un petit village d'Italie nommé Greccio, et nous célébrons cette année le 800e anniversaire de cet événement. Je vous propose aujourd'hui un bref retour sur le contexte historique de cet événement, qui est un contexte difficile, une période difficile dans la vie de François et de la fraternité. Pour cela, nous allons remonter quelques années en arrière, autour de 1220, et ce petit retour historique va nous aider à saisir la profondeur et la portée de l'initiative de François, dont nous faisons rappel aujourd'hui en cette nuit de Noël 1223. Cet événement de Greccio donc se produit dans une période critique de l'évolution de la fraternité franciscaine. François, personnellement, traverse cette période sur fond de déchirement et de combats intérieurs. Imaginez, en quelques années seulement, le nombre de frères mineurs s'est considérablement accru. D'une douzaine de frères qu'ils étaient au début, voilà qu'en 1220, ils sont près de 3000, ils seront 5000 au moment de la mort de François en 1226. Et plusieurs de ces nouveaux frères, qui sont clercs pour la plupart, veulent adapter la forme de vie aux nouvelles exigences de prédication et réclament une règle comme les autres ordres. À la faveur d'une absence de François, François sera absent entre 1219 et 1220, il se rend en Égypte pour rencontrer le sultan Malik al-Kamil à Damiette, une ville assiégée par les croisés. À l'occasion donc de son absence, des rumeurs de sa mort circulent. Et des frères, des ministres, des responsables, des communautés rédigent des constitutions et obtiennent des privilèges de la curie romaine. Avisé par un frère alors qu'il se trouve encore en Palestine, François décide de rentrer immédiatement en Italie et il s'arrête à Viterbe où se trouve le pape pour prendre conseil. De retour à Assise, il se retrouve au milieu des polémiques et tensions qui divisent les frères. L'idéal de pauvreté est au cœur des disputes. Le consensus n'existe plus. Et la forme de vie révélée par Dieu à François et développée avec les premiers frères est remise en question. Le 29 septembre 1220, fête de Saint-Michel, lors d'un chapitre dit d'urgence, François annonce qu'il démissionne en tant que ministre et serviteur de toute la fraternité, en disant « Jusqu'au jour de ma mort, je ne cesserai d'enseigner à mes frères, par mon exemple et par ma vie, comment marcher sur le chemin que le Seigneur m'a montré et que je leur ai montré à mon tour, afin qu'ils n'aient pas d'excuses devant le Seigneur. » Même s'il démissionne de sa charge de ministre et serviteur de toute la fraternité, François n'abandonne pas les frères. Il renonce au pouvoir, mais il demeure l'exemple et la conscience de la fraternité. C'est aussi d'ailleurs à partir de ce moment qu'il se met à écrire. Je ne cesserai d'enseigner à mes frères par mon exemple et par ma vie, affirme-t-il. Nous découvrons donc ici une des motivations qui amène François à célébrer de manière nouvelle cette nuit de Noël. Il veut rappeler l'essentiel à ses frères, rappeler à ses frères ce qu'ils ont promis d'observer. Accablé par les pressions des frères et les conseils de la curie romaine, François s'attaque donc au défi de fixer en une règle son idéal de vie, qui n'est rien d'autre, nous l'avons vu, que de suivre les traces du Christ pauvre et humble. Les rencontres avec la curie romaine se succèdent en vue de rédiger une règle devant être approuvée canoniquement par le pape et aussi devant répondre aux attentes des frères, puisque la forme de vie, approuvée verbalement par le pape Honorius en 1209, apparaît de plus en plus insuffisante pour une fraternité en pleine expansion numérique et géographique. François rédige une première règle dont les parchemins sont, mystérieusement, perdus. La seconde rédaction, en 1221, n'est pas sanctionnée par la curie romaine. François est déçu et semble repousser l'échéance d'une nouvelle rédaction. Il se déplace en Italie pour prêcher. Partout, les gens se pressent pour l'entendre et toucher sa tunique. Partout, il répète son message de paix et d'invitation à la pénitence. Mais pendant ce temps, les frères, ainsi que la curie romaine, s'impatientent. Au cours de l'été 1223, François prend le chemin de la solitude. Il se retire dans les grottes de Fontecolombo, en compagnie de deux frères, Léon, son ami et confesseur, et Bonizzo, un juriste. Et là, il rédige une nouvelle version de la règle. Bien que cette nouvelle rédaction, plus courte, soit de style plus juridique, la présence de François s'y fait encore sentir avec vigueur. On peut lire « J'avertis, je recommande, je défends ». Et d'ailleurs, il s'obstine à maintenir le terme de « fraternité » et à ne jamais utiliser le titre « d'ordre ». La règle est finalement approuvée par le pape Honorius III et, le 29 novembre 1223, l'ordre des frères mineurs reçoit son statut définitif. François est libéré de toute responsabilité. L'intuition évangélique du pauvre d'Assise est maintenant codifiée dans un document qui aura dorénavant force de loi. Nous sommes à quelques semaines de Noël. François est brisé dans son corps, dans son âme. Il a vu ses frères se diviser, se déchirer. Il a subi des pressions de toutes sortes. Fatigué, il s'en retourne dans les ermitages de la vallée de Rieti, là même où il avait passé de longues périodes de solitude pendant les difficiles négociations avec la curie romaine. Là, nous racontent ses biographes, il mènera un dur combat intérieur et sera soumis à une grande tentation. S'est-il trompé? Aurait-il dû être plus ferme? Son idéal est-il irréaliste? Tenté de tout abandonner et de se désintéresser de la fraternité, il s'enferme dans le silence et fuit la compagnie des frères pour lesquels il a souvent des paroles âpres et dures. Et puis, un jour, alors qu'il se retrouve dans la petite église de la Portioncule, il entend de nouveau une parole de l'Évangile qui le remet debout, la parabole du grain de sénevé. François retrouve la joie. La source chante à nouveau dans son âme. Le poète se ranime. Son imagination abonde en initiatives évangéliques qui rafraîchissent l'Évangile. C'est alors que germe en lui le projet de célébrer Noël d'une manière inédite dans la petite bourgade de Greccio. Écoutons ensemble la suite de ce récit.
Le jour de joie arriva. Le temps de l'allégresse commença. On convoqua les frères de plusieurs couvents des environs. Hommes et femmes, les gens du pays, l'âme en fête, préparèrent chacun, selon ses possibilités, des torches et des cierges pour rendre lumineuse cette nuit qui vit se lever l'astre étincelant, éclairant tous les siècles. En arrivant, le saint vit que tout était prêt et se réjouit fort. On avait apporté une mangeoire et du foin. On avait amené un âne et un bœuf. Là vraiment, la simplicité était à l'honneur. C'était le triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon d'humilité. Greccio était devenu un nouveau Bethléem. La nuit se fit aussi lumineuse que le jour et aussi délicieuse pour les animaux que pour les hommes. Les foules accoururent et le renouvellement du mystère renouvela leur motif de joie. Les bois retentissaient de chants et les montagnes en répercutèrent les joyeux échos. Les frères chantaient les louanges du Seigneur et toute la nuit se passa dans la joie.
Le jour de joie arriva, et on convoqua les frères des environs. Hommes et femmes, les gens du pays, l'âme en fête, se hâtent vers la crèche, tout comme les bergers, jadis, qui, à l'invitation de l'ange, se hâtent vers la crèche. Nous lisons en Saint-Luc, « Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » Puis arrive François, qui, trouvant tout préparé, vit et fut rempli de joie. Et donc, que voit François? Que voit-il de ses yeux de chair en cette nuit de Noël? Voici ce que dit le récit. On avait apporté une mangeoire et du foin. On avait amené un âne et un bœuf. Là, vraiment, la simplicité était à l'honneur, c'était le triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon d'humilité. Greccio était devenu un nouveau Bethléem. En reconstituant Greccio, François veut faire voir et rendre visible aux yeux de chair les conditions ainsi que les désagréments de la naissance du Verbe éternel qui vient dans la condition fragile d'un enfant. Ce Verbe éternel de Dieu est venu, nous dit François, en quête d'une demeure. Voici ce qu'il écrit dans une lettre à tous les fidèles. Cette parole du Père, si digne, si sainte et si glorieuse, le Père Très-Haut l'envoya du ciel par Saint Gabriel, son ange, dans le ventre de la sainte et glorieuse Vierge Marie. C'est de son ventre que la parole reçut la vraie chair de notre humanité et fragilité. Le Verbe éternel trouve une demeure dans le sein de l'humble Vierge Marie, de qui il reçoit notre humanité et la fragilité de notre condition humaine. Il naît dans une pauvre étable et grandi dans le petit village de Nazareth. Au cœur de la foi chrétienne, il y a ce mystère du choix de Dieu de devenir l'un de nous, l'incarnation. C'est un choix libre de Dieu de se faire chair, de connaître tout de notre condition humaine, sauf le péché, y compris notre fragilité, notre vulnérabilité, nos émotions, agréables, désagréables, et même ce qu'il y a de plus difficile à accepter dans notre condition humaine, la mort. Ce choix libre de Dieu est un mouvement d'abaissement vers nous, pour que nous puissions le connaître tel qu'il est. Un mouvement d'abaissement par lequel le Christ, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, se vida, se dépouilla de ses attributs divins pour rejoindre notre humanité jusqu'à reposer dans une mangeoire pour animaux et à mourir sur la croix comme un criminel. C'est ce mouvement qui, en théologie, est décrit par le terme « kénose ». Et de sa naissance à sa mort, au moment d'entrer librement dans sa passion, toute la vie de Jésus est en cohérence avec ce choix d'une descente libre et joyeuse dans la vulnérabilité de notre condition humaine. Dans son livre, le prêtre français Thomas Ziegler écrit en méditant sur l'incarnation « Dieu descend pour signifier qu'il est vain de vouloir se hisser à lui par nous-mêmes. Vain de croire que l'on peut monter, quels que soient nos efforts, notre force ou notre intelligence, notre bon cœur ou nos bonnes actions. Dieu descend en l'homme, quelle que soit sa naissance, sa vie, sa misère, ses crimes. Jésus descendra dans l'eau du Jourdain, et sur lui descendra l'Esprit-Saint. Il plonge dans l'eau du Jourdain comme il sera plongé dans la haine que respirent ceux qui veulent sa mort. Tout au long de sa vie publique, Jésus descendra dans des lieux peu recommandables, dans ce que le pape François appelle les périphéries existentielles de son époque. L'univers des lépreux, des prostituées, des impurs, des éclopés, publicains, possédés d'un esprit mauvais. Il mange à leur table, il les touche, il se laisse toucher par eux. Il s'abaisse devant la femme adultère pour écrire une nouvelle loi. Il s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples au moment de sa passion. Il continuera de descendre, de s'abaisser jusque dans la tombe et, nous dit le credo, visitera les enfers. Ainsi, Dieu descend, non seulement sur la terre, mais, du vendredi saint au samedi saint, il descend sous nos pieds et dans tout ce qui est inhumain. Saint Bonaventure dira que l'incarnation est la plus grande œuvre de Dieu, et qu'à Noël, Dieu s'est penché humblement vers nous pour relever la poussière de notre nature humaine en unité avec sa propre personne. François contemple cette œuvre à travers les récits de l'enfance de Jésus. Il est fasciné par ce mouvement de Dieu vers nous, par les désagréments de sa naissance et par les circonstances pauvres de sa vie et de celle de la Vierge Marie. Dans la petite chapelle de San Damiano, François découvre un Dieu qui descend vers nous pour nous rencontrer là où nous sommes. Et il découvre Dieu sous des formes les plus inattendues. La chair défigurée du lépreux, les plaintes de ses frères, comme la lumière du soleil. Thank you. Cependant, ce qui émeut François, ce qui captive son regard, sa méditation et son admiration, ce sont les conditions de cette incarnation, les désagréments que Jésus voulut endurer dès sa naissance. C'est ce que nous pouvons appeler la manière de l'incarnation, telle que révélée par les récits de l'enfance, particulièrement celui de saint Luc. François y découvre la simplicité, l'humilité et la pauvreté manifestées par le Christ. Et pour François, ces trois vertus caractérisent toute la vie de Jésus, une vie qu'il désire imiter. La simplicité. La simplicité est une vertu très importante pour François et les premiers frères. Elle signifie ne pas avoir une double vie, ne pas cacher quelque chose de sa vie pour soi, aux autres. Elle est transparence et honnêteté face aux autres. Simplicité vient du mot simplex, sans repli, sans malice. La simplicité, dit François, confond la sagesse mondaine, c'est-à-dire les intrigues et les hypocrisies. La sagesse mondaine n'est pas simple. Elle est complexe. Elle recherche son intérêt personnel en se cachant ou en évitant la vérité. Elle a peur de perdre son image. La personne simple est une personne unifiée et harmonieuse, alors que la personne complexe se cache dans les idées et les concepts. Sans sagesse, pas de simplicité. Sans simplicité, pas de sagesse. Le pape François écrit d'ailleurs « Dieu agit toujours dans la simplicité. Dans la simplicité du travail quotidien, dans la simplicité de la prière. L'esprit du monde, écrit-il, nous conduit au contraire vers la vanité, vers des apparences qui finissent dans la violence. » En Jésus, nous voyons le lien entre divinité et simplicité. Ce sont les simples qui entrent dans le royaume, alors que les sages et les savants demandent toujours de nouveaux signes et tendent des pièges à Jésus. François est attaché à la simplicité. Il se présente lui-même comme un homme simple, transparent, sans repli. D'ailleurs, pour lui, le frère simple obéit, alors que le frère complexe trouve toujours un moyen d'éviter ce qui lui est demandé. À Greccio, François contemple également la pauvreté de l'enfant Jésus et de sa mère. Pour François, la pauvreté, vivre sans rien en propre, est une conséquence du choix de suivre Jésus. Si nous possédions des biens, dit-il, il faudrait les défendre et les protéger. Pour lui, la pauvreté est un choix libre de Jésus. À Greccio, il veut voir et faire voir la pauvreté de Jésus, qui implique de vivre dans une attitude de mendiant et de pèlerin, dans la confiance en la providence. Le pape François écrit « La pauvreté de François d'Assise consiste en son refus de transformer la réalité en objet utilitaire ou de domination. » Mais pour François, la pauvreté n'est pas le but. Le but est de goûter la joie de vivre dans la providence de Dieu, de connaître le vrai visage de la bonté de Dieu. Pour lui, Jésus est le pauvre, lui qui se dépouille de sa condition divine et revêt notre condition humaine. Cette entrée dans l'humanité et dans la matière est la pauvreté du Fils de Dieu. En Marie et en Jésus, Dieu choisit la pauvreté comme forme de vie. François écrit « Lui qui était riche par-dessus tout, il voulut lui-même dans le monde, avec la très bienheureuse Vierge, sa mère, choisir la pauvreté. La pauvreté, embrassée par le Fils de Dieu dès sa naissance, restera toujours gravée dans l'esprit du saint d'Assise. Non seulement comme un souvenir à méditer qui provoque l'admiration ou la compassion, mais aussi et surtout comme une manière de vivre. En contemplant la pauvreté de la crèche, du Fils de Dieu et de sa mère, François considère la pauvreté comme une vertu royale, car elle brilla si éminemment dans le roi et dans la reine. Ainsi, il enseigne aux frères que cet enfant couché sur le foin est ce que doit être le frère mineur, et la pauvreté de Jésus est d'autant plus exemplaire, non pas parce que plus absolue, mais parce qu'elle est volontaire, parce qu'elle est un choix du Christ. Dans la crèche, donc, François découvre la simplicité, la pauvreté et l'humilité manifestées par le Christ dès sa naissance. J'aimerais m'arrêter un peu plus longuement sur l'humilité, qui est souvent mal comprise. En réalité, la saine humilité exige beaucoup de courage. Vous avez peut-être appris que l'humilité est l'attitude de celui ou celle qui s'efface, qui ne se considère pas très importante, qui se déprécie ou évite de prendre de la place. Une telle personne souvent adopte un comportement modeste. Mais est-ce vraiment être humble? L'humilité consiste à vivre dans la vérité de son être. Et donc, le Christ, profondément humble, vit dans la réalité de son être. L'humilité confond l'orgueil, qui consiste à ne pas accepter les limites de la condition humaine. Le Christ accepte toutes les limites de la condition humaine. L'orgueil, c'est aussi de se surestimer et de mépriser l'autre. Le Christ aura compassion pour toute personne. L'humilité est la qualité de celui ou de celle donc qui se perçoit de façon réaliste et ajustée, qui s'accueille tel qu'il est, qui est conscient de ses potentialités, mais aussi de ses limites. Quelqu'un qui porte sur lui-même le même regard que Dieu porte sur lui. L'humilité s'oppose alors à toutes les visions déformées que nous pouvons avoir de soi-même, soit par orgueil, par narcissisme ou, au contraire, par une faible estime de soi. L'humilité concerne avant tout le sens du réel. Elle exige une vision claire et saine de ce que je suis, sans vaine complaisance, ainsi qu'une juste appréciation de soi-même et de sa valeur personnelle, plutôt qu'une appréciation basée sur la fantaisie, les illusions ou sur les perceptions des autres, ou sur son rôle ou son statut social. C'est vraiment une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi. C'est une attitude par laquelle on ne se place pas au-dessus ni au-dessous des autres et par laquelle on respecte ce dont la Providence nous a gratifié, sans convoitise, sans jalousie, sans comparaison. L'humilité n'est pas une qualité innée chez l'être humain. On considère communément qu'elle s'acquiert avec le temps et l'expérience, qu'elle est le fruit d'une maturité spirituelle, le fruit d'une prise de conscience et d'une acceptation lucide de sa condition humaine, de son histoire personnelle et de sa place réelle au milieu des autres. À l'occasion d'une rencontre du pape François avec les Capucins réunis en chapitre en 2018, le pape François disait « L'humilité et la simplicité sont le style de Dieu. » Et dans son encyclique, Laudato si, il écrit « La disparition de l'humilité chez un être humain enthousiasmé malheureusement par la possibilité de tout dominer sans aucune limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à l'environnement. Il n'est pas facile de développer cette saine humilité, ni une sobriété heureuse, si nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre « moi » prend toute sa place. Si nous croyons que c'est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien et ce qui est mauvais. Simplicité, pauvreté, humilité. Ces trois vertus sont chères à François. Il les nomme et les chante souvent dans ses écrits. Dans son livre intitulé « L'humilité de Dieu », la franciscaine Ilia Delio nous lance cette question. À quoi ressemblerait le monde? À quoi ressemblerait l'Église si les chrétiens croyaient vraiment en un Dieu humble?
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le frère Louis Cinq-Mars, capucin, dans sa série intitulée « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».